bonne question pour vous. Est-ce que les expériences spirituelles sont toutes fondées sur la Bible? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui nous aidera à être prudents aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Le Seigneur va continuer à nous instruire aujourd'hui à travers l'épître de Paul aux Galates. Et j'ai bien hâte d'entendre ce qu'il va répondre aux questions que voici. Est-ce que le croyant doit essayer d'être crucifié avec Christ? Comment est-ce que le croyant est sauvé? Comment est-ce qu'il vit? Comment est-ce qu'il marche? Est-ce que les expériences spirituelles sont toutes fondées sur la Bible? Est-ce que les expériences spirituelles peuvent confirmer l'Évangile? Qu'est-ce qui démontre qu'une personne s'est convertie? Y a-t-il quelque chose qui a prouvé l'apostolat de Paul? Demeurez avec nous, nos réponses s'en viennent. Le pasteur et Jean Joly va nous les donner et vous pouvez être certain qu'elles viennent toutes de la Bible, de la merveilleuse parole de Dieu. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, oui, ta parole est merveilleuse parce que tu es merveilleux. Je te demande de parler à nos cœurs aujourd'hui, de nous enseigner par la bouche de ton serviteur. Enseigne-nous des choses nouvelles qu'on n'a jamais comprises auparavant. Donne-nous cette joie, Seigneur, d'entendre ta voix dans nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, on t'écoute. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que le Seigneur Jésus nous donne un salut parfait et complet, que l'on accepte par la foi. Ajouter quoi que ce soit à l'Évangile du Seigneur Jésus, c'est le dévaloriser. Nous sommes tous des pécheurs. Et aucun de nous ne peut être sauvé en observant une loi. La loi nous révèle plutôt que nous avons des cœurs méchants et que nous avons besoin d'un sauveur. Justifier une personne, c'est la déclarer juste. C'est le Seigneur Jésus qui nous donne la vie. Puisque notre justice est comme un vêtement souillé, il nous donne la sienne, sa justice. C'est pourquoi Dieu nous déclare juste. Chers amis, débutons notre lecture de l'Épître de Paul aux Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous avons terminé la dernière émission en disant que nous n'avons pas besoin d'essayer de nous crucifier, de mourir au péché. Nous sommes crucifiés avec le Seigneur Jésus, et nous avons été ramenés à la vie avec lui. Nous n'avons qu'à l'accepter par la foi, chers amis. Jésus-Christ est mort à notre place. Il est notre substitut. Beaucoup de personnes parlent de vivre une vie de crucifié, c'est-à-dire qu'elles cherchent une vie de victoire sur la chair et le péché. Mais nous n'avons pas à essayer d'être crucifiés avec le Seigneur Jésus. Le croyant est déjà crucifié avec Jésus-Christ. Je ne peux me crucifier en m'imposant des lois et des règlements, ni à coups de résolution. Nous ne pouvons pas marcher selon la loi qui nous a fait périr en démontrant notre culpabilité. Maintenant, nous devons marcher par la foi, uniquement par la foi. Quel doit être l'objet de notre foi? Le Fils de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, mes amis, la mort de Jésus-Christ à la croix n'était pas seulement pénale, c'est-à-dire une punition pour nos péchés. Elle était aussi une substitution. Le Seigneur Jésus n'était pas seulement le sacrifice expiatoire de nos péchés, mais il était le substitut des croyants, c'est-à-dire qu'il est mort à leur place. Jésus-Christ est mort à ma place. Est-il mort à ta place? Les croyants furent crucifiés avec le Seigneur Jésus. Paul déclare que sous la loi, il fut jugé, reconnu coupable, condamné et exécuté dans la personne de son substitut. Quand est-ce que cela s'est produit? Cela s'est produit lorsque le Seigneur Jésus fut crucifié. Paul fut crucifié avec le Seigneur Jésus. Cependant, Paul vit. Comment se fait-il? Dans le Seigneur Jésus, il vit à la droite de Dieu dans les lieux célestes. La Bible nous dit que nous avons été placés en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas améliorer cela ou trouver mieux que cela. Nous n'avons pas à chercher à nous crucifier. Paul le mentionne dans Éphésiens chapitre 2, versets 5 à 7. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Lorsque Paul dit qu'il a été crucifié avec Christ, il ne dit pas qu'il s'est crucifié à un moment donné de sa vie, mais qu'il a été crucifié avec le Seigneur Jésus lorsque celui-ci est allé à la croix. La mort du Seigneur Jésus était une substitution. Il est mort pour Paul. Il est mort pour vous. Il est mort pour moi. Nous sommes ramenés à la vie avec Jésus-Christ. Au chapitre 6 de l'Épître aux Romains, nous lisons que nous avons été ensevelis avec le Seigneur Jésus, étant identifiés avec lui dans sa mort. C'est ce que signifie être baptisé en sa mort. Nous avons été ramenés à la vie avec lui afin que nous marchions en nouveauté de vie. Et maintenant, nous sommes unis à un Seigneur Jésus-Christ vivant. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Citation de Romains, chapitre 6, verset 4. Paul affirme que nous ne connaissons plus le Seigneur Jésus selon la chair, c'est-à-dire, il n'est plus l'homme qui a vécu en Galilée et qui a exercé un ministère dans la région. Maintenant, le Seigneur Jésus est glorifié et il se tient à la droite de Dieu. Là où se trouvent les véritables croyants, par la foi. Le croyant est sauvé par la foi, vit par la foi et marche par la foi. Paul dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » Voyez-vous, la loi nous a condamnés et fait exécuter. La loi ne pouvait pas nous donner la vie, et elle ne le peut toujours pas. Qu'est-ce qui nous a donné la vie? « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. » Comment est-ce que je vis? Bien, c'est le Seigneur Jésus qui vit en moi. Mes amis, voilà une vérité importante. Le Seigneur Jésus est mort pour moi alors qu'il était sur terre, afin que je puisse le rejoindre au ciel et qu'il puisse vivre en moi pendant mon séjour sur terre. Paul ajoute, « Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. » Laissez-moi vous poser cette question. Quelle sorte de vie est-ce? Une vie de foi. Sauvé par la foi, vivant par la foi et marchant par la foi. C'est ce qu'on appelle marcher par l'Esprit. C'est par la foi que nous recevons le salut de notre âme. « Je vis dans la foi au Fils de Dieu », précise l'apôtre Paul. Et voyez comment la suite est touchante. « Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Le Seigneur Jésus m'a aimé. Mais l'amour seul ne pouvait pas m'ouvrir la porte du ciel. Il a dû donner sa vie pour moi, se sacrifier pour moi. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Un don se reçoit uniquement par la foi. Ceci est vrai de n'importe quel don. Vous devez croire que la personne qui vous offre un cadeau est sincère. Vous devez la croire lorsqu'elle vous tend le cadeau et dit « C'est pour toi ». Vous devez cependant accepter le cadeau pour qu'il devienne vôtre. Dieu vous propose la vie éternelle en Jésus-Christ, et c'est par la foi que vous acceptez ce cadeau gratuit. Ce verset me porte à croire que Paul était présent à la crucifixion du Seigneur Jésus. Paul était un pharisien, et ce sont eux qui désiraient ardemment faire périr le Seigneur. Paul était un des principaux persécuteurs de l'Église. Il haïssait le Seigneur Jésus-Christ. Il devait être à Jérusalem en train d'étudier sous Gamaliel au moment de la crucifixion. Je ne crois pas que ce jeune homme zélé soit demeuré à la maison le jour de la crucifixion. Les Écritures nous disent que les pharisiens se sont moqués de Jésus. Ils l'ont invité à descendre de la croix. Ils ont regardé Jésus mourir. Peut-on aller plus bas que cela? Je pense que Paul était présent au calvaire le jour de la crucifixion. Après que Paul eut connu le Seigneur Jésus glorifié, celui qui est mort sur terre et qui est maintenant ressuscité et assis à la droite de Dieu, Paul pouvait se rappeler le jour de la crucifixion et dire, « Pendant que je riais de lui et que je l'injuriais, pendant que j'exprimais ma haine envers lui, il m'a aimé et il a donné sa vie pour moi. » Le Seigneur Jésus a fait le sacrifice suprême. Paul disait être le plus grand des pécheurs, et cela n'était pas une exagération. Paul était en effet un grand pécheur. Mes amis, vous pouvez mépriser le sang précieux que le Seigneur Jésus a versé à la croix en n'en tenant pas compte, en vous détournant de lui, ou en vous tournant contre lui comme le fit Paul. Cependant, c'est pour la foule qui se moquait de lui et ses bourreaux que le Seigneur Jésus a prié. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc, chapitre 23, verset 34. Même si tu le hais, il t'aime, et c'est pour toi qu'il est mort à la croix. Poursuivons notre lecture, Galates, chapitre 2, verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Seule la croix permet à Dieu de nous sauver. S'il y avait eu une autre façon de sauver les pécheurs, Dieu l'aurait employée. C'est l'idée principale qu'exprime Paul par ce verset. Si une loi ou une religion aurait pu sauver les pécheurs, Dieu nous l'aurait donnée. Seule la mort expiatoire de Jésus-Christ pouvait permettre à Dieu de nous sauver. Le Fils a accepté de faire le sacrifice suprême. Au chapitre 3, Paul rappelle aux Galates leur conversion. Comment ont-ils été sauvés? Ont-ils été sauvés en observant la loi ou par la foi en Jésus-Christ? Verset 1er de Galates 3. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Ô Galates dépourvus de sens, Galates insensés, le mot grec traduit dépourvu de sens est anoetoi, dont la racine est nous qui signifie intelligence. Paul leur dit qu'ils ne réfléchissent pas, ils n'utilisent pas leur nous. Qui vous a fasciné? Permettez que je vous répète cela en bon québécois. Qu'est-ce qui vous prend? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Je ne pense pas que Paul ait vraiment dessiné des images de Jésus pour les Galates, mais il a dû tracer un portrait en prose. Les images sont utiles pour enseigner. Je n'enseignerai pas un cours au sujet du temple et des sacrifices sans utiliser des dessins d'artistes sur diapositives ou au moyen d'une présentation PowerPoint. Une image vaut mille mots, chers amis. Paul a peint Jésus-Christ avec mille mots puisqu'il n'avait pas notre technologie. Il a donné les détails de la crucifixion et il en a expliqué le but. C'est sa mort à la croix qui rend notre salut possible. Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? L'expérience doit corroborer ou confirmer l'Évangile. Il faut être prudent ici. L'Évangile est vrai, qu'importe les expériences spirituelles que nous avons faites. L'expérience confirme l'Évangile. plusieurs personnes partent de l'expérience pour aller vers la vérité. La parole de Dieu part de la vérité pour nous conduire à l'expérience. Les expériences spirituelles ne doivent pas être rejetées, mais elles doivent être évaluées et examinées à la lumière de la vérité par la parole de Dieu. Les gens font des expériences très différentes les unes des autres. Le fondateur d'une secte raconte une expérience. Ensuite, une autre personne en raconte une entièrement différente. Qui croire ou qui suivre? En fait, je ne suivrai pas personne en me fiant au récit d'une expérience que quelqu'un a vécue. Un jour, un homme s'est levé lors d'une réunion d'église. Il a lu un extrait de la Bible. Il a dit, « Parce que les avis sont partagés au sujet de l'interprétation de ces versets et que je ne veux pas provoquer une controverse, laissez-moi vous parler de mon expérience. » Bien, son expérience était loin de se conformer à l'enseignement de la Bible. Il fondait la vérité, ou je devrais dire sa vérité, sur son expérience. Nous ne pouvons pas faire cela. L'expérience doit corroborer ou confirmer l'Évangile. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Précise Paul. La prédication de la foi comprend le contenu du message, la réception du message, et dans le cas des Galates, cela devait être forcément l'entendre. Aujourd'hui, nous avons le privilège de pouvoir le lire, même le voir et l'entendre grâce à la technologie multimédia. L'Évangile raconte ce que Dieu a fait pour nous et nous avons besoin de capter ce message. Dans cette section, Paul pose plusieurs questions. Il demande aux Galates de se remémorer leur expérience et il pose 6 questions au sujet de ce qu'ils ont vécu en rapport avec l'Évangile. Chers amis, la réception de l'Esprit démontre qu'une personne s'est convertie. Voici la première question. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Personne n'a jamais reçu le Saint-Esprit en observant la loi, même pas dans l'Ancien Testament. Il fut toujours obtenu par la foi en Dieu et dans sa révélation. Les Galates n'ont jamais observé la loi pour se mériter l'Esprit ou obtenir le droit de l'avoir. La réception de l'Esprit démontre qu'une personne s'est convertie. L'Écriture nous dit, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Romains chapitre 8, verset 9. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Éphésiens chapitre 1, verset 13. Voici la deuxième question, verset 3. « Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? » Voici une paraphrase de la question de Paul. Si l'Esprit est celui qui vous a converti, qui vous a conduit au Seigneur Jésus, et que maintenant l'Esprit de Dieu habite en vous, allez-vous vous replacer sous le joug de la loi, qui fut donnée pour contrôler la chair, en pensant que vous vivrez dans un état spirituel mature? Verset 4. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Paul demande aussi aux Galates. Allez-vous laisser toutes vos souffrances devenir vaines et inutiles? Il leur rappelle qu'ils avaient payé un prix pour avoir accepté l'Évangile. Auront-ils subi tout cela inutilement, sans aucun but? Ceci soulève une autre question, verset 5. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Les miracles ont prouvé l'apostolat de Paul. Paul parle du ministère qu'il a exercé auprès d'eux. Rappelez-vous que les judaïsants ont contesté son apostolat. Ils affirmaient qu'il n'était pas un véritable apôtre, car il fut appelé après les autres, après le départ de Jésus vers le ciel. Il n'était pas un des 12 choisis par Jésus-Christ alors qu'il était sur la terre. Il n'a pas suivi Jésus-Christ pendant les 3 années de son ministère public, mais il s'est converti beaucoup plus tard. Paul rappelle aux Galates que c'est lui qui est venu dans leur coin de pays, qui leur a prêché l'Évangile et qui a fait des miracles parmi eux. Il ne l'a pas fait en se plaçant sous le joug d'une loi et en suivant des rituels religieux. Paul s'assure de souligner qu'il ne l'a pas fait par les œuvres de la loi. Il leur a présenté Jésus-Christ comme étant celui qui est mort pour eux, qui est ressuscité, et il leur rappelle qu'ils ont placé leur confiance en Jésus. Lorsqu'ils ont fait confiance à Jésus, un miracle s'est produit. Ils furent régénérés. Paul avait la preuve qu'il était un apôtre. À cette époque, le pouvoir de faire des miracles, preuve de leur apostolat, fut donné aux apôtres. Tel que je comprends les choses, les apôtres avaient tous les dons miraculeux mentionnés dans la Bible. Paul pouvait faire des miracles. Il pouvait guérir des malades et ressusciter des morts. Pierre, un des 12 apôtres qui ont suivi Jésus-Christ, pouvait faire les mêmes miracles. Ce pouvoir de faire des miracles permettait d'identifier et d'authentifier les apôtres. Maintenant, nous avons la parole de Dieu que nous ont laissée les apôtres. Notre foi est fondée sur Jésus-Christ, la pierre angulaire de l'édifice, et elle repose sur le fondement laissé par les apôtres et les prophètes. Le pouvoir de faire des miracles prouvait l'origine divine et l'authenticité de leur message. Ils possédaient les dons miraculeux qui confirmaient leur apostolat. Lorsque nous avons eu la parole de Dieu, de la main des apôtres, les signes miraculeux ont disparu. Certains pensent même qu'ils ont disparu avec le départ des apôtres. Cependant, nous devons retenir ce point essentiel. Le Paul, qui est venu vers les Galates, n'était pas un pharisien prêchant l'observation de la loi, mais un apôtre proclamant l'Évangile de Jésus-Christ, c'est-à-dire le salut par foi. C'est l'expérience qu'ont vécu les Galates et elle est l'argument principal de Paul. En résumé, nous avons vu que le salut reçu par la foi fut l'expérience vécue par les Galates. C'est pourquoi il leur a demandé « Qu'est-ce qui vous prend ?» Il mentionne l'Esprit 3 fois dans cette section et il rappelle aux Galates qu'ils n'ont pas reçu l'Esprit par l'observation de la loi. La présence du Saint-Esprit démontre la réalité d'une conversion. Il est important que nous nous rendions compte que l'Évangile est vrai. Qu'importe ce que peuvent ressentir les Galates ou quiconque d'autre. L'Évangile est objectif. Il traite de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. L'expérience peut corroborer ou confirmer l'Évangile, et c'est ce que Paul démontre dans cette section. L'expérience confirme que l'Évangile est suffisant en matière de salut et de marche chrétienne. Chers amis, la foi en Jésus-Christ, crucifié, comprend 2 aspects. Il faut croire que le Seigneur Jésus a été crucifié pour nos péchés. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aussi croire que nous avons été crucifiés avec le Seigneur Jésus et que nous sommes revenus à la vie avec lui. Si le 2e aspect de la foi en Christ crucifié nous échappe, si l'Esprit ne nous enseigne pas que nous sommes crucifiés avec lui, alors nous n'avons aucune puissance dans notre vie chrétienne. La grâce de Dieu est suffisante. Et le salut s'obtient strictement par grâce. Nous ne pouvons pas y ajouter des œuvres pour mériter la grâce de Dieu. Notre marche chrétienne se fait aussi par grâce. Je n'ai pas à accomplir des œuvres pour que Dieu m'aime et m'accepte. L'amour de Dieu est infini et immuable. Il ne pourra jamais m'aimer davantage. Chers amis, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Préparons-nous pour la prochaine émission en lisant l'Épître de Paul aux Galates, chapitre 3, les versets 5 à 9.
Merci, Régent. Mes amis, je me suis encore identifié à l'apôtre Paul aujourd'hui. Vous l'avez peut-être fait, vous aussi. Là où je me suis reconnu, c'est quand Paul a dit qu'il était le plus grand des pécheurs. N'oublierai jamais le moment, avant ma conversion, où j'ai vu soudainement que presque tout ce que je faisais était péché. J'avais un amant marié, je faisais des abus d'alcool, je consommais de la drogue quotidiennement, je mentais, je prenais le nom du Seigneur en vain. J'avais même fait une tentative de suicide. Et le sixième commandement de Dieu nous dit « Tu ne tueras point ». Quand j'examine les commandements de Dieu, je considère que je les ai littéralement tous transgressés. En m'écoutant, vous pensez peut-être « Oh, moi je ne pêche pas autant qu'elle », mais n'oublions pas ce que Jacques nous dit dans son épître au deuxième chapitre, verset 10. Il dit « Quiconque observe la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous ». On est tous des coupables. Mon ami, je ne dis pas ça dans le but de te décourager. Paul nous dit dans son épître aux Romains, au troisième chapitre, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il ajoute une très bonne nouvelle au verset suivant. Il dit qu'on est gratuitement justifié par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et il ajoute au cinquième chapitre, verset 8, que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et il renchérit au chapitre 6, verset 23, en disant que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Quel Dieu merveilleux! Je ne sais pas si ça te fait le même effet que moi d'entendre tout ça, mais personnellement, je réalise à quel point Dieu m'aime. Je transgressais sa loi, et alors qu'il aurait dû me punir comme je le méritais, il a transféré cette punition sur son Fils Jésus, qui volontairement s'est laissé flageller, donner des coups de poing et des soufflets, cracher au visage, mettre une couronne d'épines sur la tête et crucifié comme un malfaiteur, lui qui n'avait jamais péché. Et il a pensé à moi alors qu'il agonisait sur la croix. Et il a pensé à toi. C'est pour nous qu'il a fait tout ça. Et crois-moi, les clous n'auraient pas pu le tenir sur cette croix s'il n'avait pas voulu y rester jusqu'au bout. Non, mon ami. C'est son amour pour moi qui le retenait sur la croix. C'est son amour pour toi. Maintenant, qu'est-ce que tu désires faire? Aimerais-tu recevoir le salut qu'il veut te donner? Celui pour lequel il a payé si cher? Eh bien, reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse perdue. Repens-toi. Demande à Dieu de te pardonner. Change de direction à l'égard du péché, puis demande à Jésus ce salut qu'il veut te donner. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle. Quand je pense à Jésus, qui était là, cloué sur la croix, avec les mains, les clous dans les mains, je le vois, me semble, avec les bras ouverts pour m'accueillir en même temps. Eh bien, mon ami, ses bras sont ouverts pour t'accueillir présentement. Refuse pas le beau salut qu'il veut te donner. Refuse pas le beau don de la vie éternelle.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Ben, qui es-tu, Caro?
Eh bien, je vais commencer par qui j'étais. J'étais une jeune femme qui chantait toutes sortes de chansons populaires. J'avais des succès au palmarès et ma carrière menait bon train. J'étais malheureuse, j'étais sans Dieu dans le monde. Et un jour, Dieu s'est fait connaître à moi. Et j'ai accepté Jésus comme sauveur, comme Seigneur. Et je suis devenue une enfant de Dieu. Je suis née de nouveau. Et maintenant, je suis une chrétienne évangélique qui aime propager l'Évangile de Dieu. Avec toi, Réjean, je passe partout au Québec pour annoncer la bonne nouvelle du salut par grâce. À tous les gens qui veulent nous entendre, à tous ceux qui veulent s'intéresser à ce que Dieu veut pour eux, à connaître son amour pour eux. Alors, je vais avec toi, on va partout dans des déjeuners de l'espoir, et ici, à Radio Espoir, pour dire aux gens, Dieu vous aime et Dieu veut vous instruire, vous faire connaître sa sainte parole. C'est merveilleux.
Les gens aimeraient peut-être nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647. Et on a une adresse courriel.
www.radioespoir.ca ou l'adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, Québec, G1G6P2.
Chers amis, à demain.
C'est un rendez-vous.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.